La muse du jour, bonjour. Nous nous déplaçons en Ardèche, plus précisément à Aubenas. Aujourd'hui, j'ai la chance, l'honneur et l'avantage de me retrouver en présence de plusieurs muses. Il est de tradition, quand une muse est convoquée, qu'elle décline son nom, son prénom et son activité musicale. Donc, chère muse, on va commencer par celle qui est à côté de moi. C'est quoi votre nom et quelle est votre activité musicale ou instrument ?
Alors, moi, je m'appelle Maëlle Coulanges. Je suis je suis ici en fait avec deux casquettes. La première, c'est en tant que musicienne issue des musiques traditionnelles, dont les musiques d'Ardèche. Mais aujourd'hui, je joue principalement des musiques de Méditerranée orientale, donc plutôt des musiques de Grèce, Turquie, Iran, Afghanistan, etc. Mais j'ai pas mal joué de musique traditionnelle irlandaise, par exemple, ou de musique traditionnelle française de différentes régions.
Ok.
Et puis, je suis également présidente de la FAMDTA, donc la Fédération des musiques et danses traditionnelles d'Ardèche.
D'accord.
Et donc, voilà, une fédération qui regroupe différents ateliers. J'en parlerai un petit peu plus longuement plus tard. Voilà.
Et on va présenter tout le monde comme ça. On va faire un tour de table.
Bonjour, moi, c'est Agnès Clausel. Je suis musicienne, flûtiste, sonneuse de cornemuse et je joue principalement des musiques traditionnelles et en ce moment principalement des musiques traditionnelles d'Ardèche.
Super. Voilà. Bon, très bien. Bon, on continue le tour de table alors.
Bonjour, du coup je m'appelle Camille Guillemet. Donc je suis aussi flûtiste à bec. Je fais de plus en plus de chants en plus de la flûte à bec et d'autres bidouilles. Comme on pourra en parler plus tard dans le duo qu'on a avec Agnès.
Ok, donc on verra pour les bidouilles alors.
Ouais. Il y en a quelques-unes.
Ok, bon, super. On a la petite.
Oui, bonjour. Je m'appelle Annette Graniker. Je ne fais pas partie en fait des musiciens, mais je fais de la musique.
Oui.
Et j'ai découvert la musique traditionnelle. En France, en particulier en Ardèche, dont je ne suis pas du tout originaire, mais que je trouve très jolie, et que j'ai pris goût à interpréter et jouer avec d'autres personnes, entre autres avec Patrick Mazelier, qui n'est pas une muse, mais comment on dit amusant masculin, je ne sais pas.
Une muse aussi. C'est le féminin l'emporte cette fois-ci.
Et puis
avec voilà, profitez-en.
Et puis souvent, on fait des soirées avec d'autres musiciens amateurs.
D'accord.
Voilà.
Ah, super.
Oui, bonjour. Je suis Patrick Mazelier. Oui. Je suis musicien d'abord, violoniste.
Oui.
J'ai fondé depuis très longtemps un groupe qui est un peu le rénovateur de la musique traditionnelle en Ardèche, mais plus généralement dans une partie de l'Occitanie, région Rhône-Alpes, disons, ce qu'on appelle le midi moins le quart. Voilà, ça s'appelle Rural Café. On a fait pas mal, on a fait des milliers de concerts, dans des grands festivals, le Dranouter en Belgique, en Allemagne, en Espagne, en Italie, etc. etc. Voilà. Je suis aussi chercheur en ethnomusicologie, j'ai un doctorat, etc., etc. J'ai une petite carrière de chercheur, mais je suis surtout musicien.
D'accord. Entendu. D'accord. On va aller tout de suite dans le vif du sujet. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, puisque nombreux vont être ceux qui vont écouter l'émission et qui ne connaissent pas forcément la musique d'Ardèche, quelles sont les différentes déjà musiques et donc danses aussi, généralement ça va de pair, que l'on trouve en Ardèche.
Oui, alors...
les principales, il y en a beaucoup.
C'est varié, oui. C'est un peu complexe. C'est un peu complexe parce qu'au départ, la tradition en Ardèche, elle est essentiellement connue comme une tradition de chant.
D'accord.
On est en fait tous chanteurs. Quand on est musicien traditionnel, la plupart du temps, on est chanteur. Parce qu'en fait, la musique passe par le chant. C'est joue ce que tu chantes, chante ce que tu joues. Alors c'est assez intéressant aussi, par exemple, pour l'improvisation, ce genre d'approche. Voilà. Mais essentiellement en Ardèche, donc la musique traditionnelle est connue à travers un grand compositeur français qui est un peu oublié aujourd'hui, qui s'appelait Vincent Dindy. Et c'est le premier qui a fait, avec Joseph Cantouloup, qui ont remarqué qu'il y avait une tradition particulière de chant dans le Vivarais ou l'Ardèche. C'est la même chose, la province du Vivarais et l'Ardèche. et que cette tradition de chant, entre autres, était basée sur un certain nombre de modes d'échelle musicale ancienne qui avaient des particularités assez intéressantes pour l'époque, quoi. Voilà.
D'accord.
Et c'est parti de là. Ensuite, après, eux ne se sont pas trop intéressés à la musique instrumentale, parce que c'était plutôt des esthètes, à l'époque il y avait tout un courant, enfin 19e, autour de l'esthétisme du chant populaire. Et donc ils étaient plutôt dans trouver des échelles modales, on pourrait dire un peu, il y a plein de modes éoliens, doréens, qui
oui. avaient des réminiscences. Donc plutôt mineurs alors.
Voilà. Donc les musiciens ne les intéressaient pas trop, parce que ces chercheurs-là étaient des musiciens de conservatoire, et ils considéraient par exemple les violoneux, il y avait beaucoup de violoneux en Ardèche,
Et on dit violoneux, pas violoniste.
Oui, pour dire joueur de violon populaire.
D'accord.
Voilà. Mais eux, ça les intéressait pas trop. Donc il y a toute une tradition de musique à danser et jouer qui a été redécouverte à partir des années 70. Donc je fais partie de la génération des jeunes collecteurs. Parce que moi, en fait, je suis né ici. Ma grand-mère était chanteuse traditionnelle. Elle chantait dans les noces. Donc j'ai entendu chanter sur ses genoux. Elle nous faisait chanter quand j'étais tout petit. Donc, quand j'ai commencé à jouer à la musique, j'ai commencé à jouer ces musiques-là. Mais j'ai vu que ça n'intéressait absolument personne, en fait. Oui. Donc, je ne sais pas pourquoi. Et puis, il a fallu que j'aille à l'université. Et comme on était isolés en tant qu'étudiants ardéchois, les étudiants ardéchois, à l'université de Grenoble, on faisait des espèces de fiestas. Et chaque fois, on me dit, allez, viens jouer la bourrée, la farandole, le rigodon. Voilà. Et c'est comme ça qu'on s'est aperçu progressivement qu'on avait une tradition de musique.
Oui.
Moi, je suis replongé là-dedans. Voilà, si vous voulez, tout ce qui est musique instrumentale, on est en fait dans la tradition occitane. Hein. On a deux grands marqueurs, c'est le rigodon, avec des formes d'ailleurs très intéressantes au niveau des modes aussi, qui sont influencées essentiellement par la Provence, puis par la Drôme aussi, hein, par les Hautes-Alpes en fait. Il y a une espèce d'axe transversal. Et puis après, on a une autre influence qui est intéressante en Ardèche, c'est l'influence de la bourrée, donc, puisqu'on a une influence du massif central. Donc,
d'accord.
En fait, rythmiquement, c'est assez riche, parce qu'on a fois des rythmes à trois temps, des rimes à deux temps. Hein,
oui, puisque dans les bourrées, il y a des bourrées à deux temps, mais pas seulement, c'est ça?
Oui, alors ici, c'est plutôt la bourrée à trois temps. La bourrée
d'accord.
à deux temps n'existait pas trop. Hein,
okay.
voilà. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est comme il y avait un mélange entre les rimes, c'est-à-dire en gros, il y avait un mélange entre les rimes à deux temps, ou les rimes, disons, disaient 8-8, ces rimes sont mélangées avec des rimes à trois temps. Tam, tam. Donc ça donnait des trucs tam, titam, titam, tam, titam, asymétrique.
D'accord.
Voilà. Mais ces bourrées-là ont été un peu abandonnées par les gros folkloriques parce que c'était trop complexe. Et la particularité de l'Ardèche, justement, c'est qu'il y a eu très peu de gros folkloriques. Donc quand nous, on a collecté en 70, ce qui s'est passé, c'est qu'on a trouvé le truc dans son jus.
D'accord.
Voilà. Et à l'époque, on n'en revenait pas, quoi. Tout le monde nous avait dit, mais non, mais il n'y a rien en Ardèche. Il n'y a pas de tradition. C'est tout mort, c'est un tout. Puis on va avoir un grand-père et te sort 250 chansons. Alors on fait écouter même à des érudits de la langue occitane, ils n'en revenaient pas, ils disaient mais c'est pas possible qu'on soit passé à côté. Bah, en fait, il y avait des trucs.
Et est-ce que ça correspond aussi, parce que dans les années 70, si je ne me trompe pas, il y avait eu tout ce courant des bals folk qui revenaient, qui était
ça
aussi de l'influence des États-Unis avec un petit.
Oui, bien sûr, on était tous admirateurs de Pete Seeger, de John Baez, de Bob Dylan et de Renaud qui avait de la musique américaine. On était influencés par la musique américaine. Oui, moi, au violon, j'ai commencé par jouer plutôt de la musique américaine et du grappelli.
D'accord.
Et puis après j'ai redécouvert le répertoire de violon plus local, tout en continuant à le mélanger à d'autres choses. Hein, parce que, bon, il faut être clair aussi sur la musique d'Ardèche. La musique d'Ardèche, ça existe parce que ça a des liens avec d'autres musiques.
D'accord.
Il n'y a pas de musique isolée. Hein. Elle fait d'abord partie de la musique occitane et puis elle a été influencée par plein d'autres musiques. Hein. Donc, toutes les musiques sont, comment dire, interpénétrées les unes aux autres, échangent.
Oui, il n'existe pas de race, il n'existe pas de musique pure.
En Ardèche, on trouve des scottish, mais scottish, on en trouve dans les îles à Guadeloupe. Hein.
Oui, oui.
Voilà.
D'accord, comme les quadrilles et tout ça.
Les quadrilles, il faut comprendre les formes musicales, comment elles ont voyagé. Et chaque région, chaque peuple s'en empare et crée des choses avec. Voilà.
C'est
ça, l'Ardèche aussi. Hein.
D'accord, un foisonnement.
Voilà, nous, ce qu'on a fait, en fait, avec qu'essaye de faire tout le monde, les copines là, et tout ça, c'est qu'on fait redémarrer un petit peu le bouillon, quoi.
D'accord.
Hein, c'était un peu refroidi, on a remis le truc, on reprend la cuisine, quoi, voilà.
Mais il y a toujours un truc que je me suis posé comme question, parce qu'on voit que maintenant, tout va vite avec les transports. Donc, on peut aller, là, j'ai pu venir en Ardèche pour venir, etc. Mais avant, c'était pas aussi simple. Et malgré ça, il y avait quand même pas mal d'interpénétration dans
Tout à fait. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis là, parce que effectivement, des éléments importants, parce qu'on est dans la transmission orale.
Oui. Hein,
voilà. Et la transmission orale, alors, la différence qu'il y a, c'est que si tu veux, c'est assez rapide quand même l'information par les colporteurs, les choses comme ça, mais évidemment c'est beaucoup moins rapide que maintenant. Par contre, il y a des temps de maturation qui sont laissés aux gens pour retransformer les choses. Alors qu'aujourd'hui, ça va tellement vite que tu apprends un morceau le lundi, il est démodé le mardi et tu en apprends un autre le mercredi sur Internet.
Ouais. Donc, c'est vrai.
Tu n'as pas eu le temps de retransformer le morceau que tu as appris le lundi, qu'il faut déjà en apprendre un autre si vous continuez à jouer. Est-ce qu'à l'époque, les gens avaient beaucoup plus de temps pour reformater en eux-mêmes Et c'est pour ça qu'on trouve des fois, tu vas coller dans une vallée, d'un côté, il y a une chanson qui est dans une version, et en face, c'est pas la même version, les mêmes paroles, mais pas la même mélodie.
Parce que d'accord.
Le gars d'en face, il a eu le temps de la transformer à sa manière.
Ok, donc c'est comme ça que ça s'est... D'accord.
Voilà. Il y a aussi des effets de proximité dans cette transformation, c'est un peu compliqué, mais c'est vraiment le cœur des musiques traditionnelles, ce problème de la vitesse de la transmission et de la recréation, parce que c'est
d'accord.
Un processus de recréation permanent, en fait.
Alors, ouais, super.
En fonction des influences que les gens reçoivent, quoi, voilà.
Ah, excellent.
Ouais.
D'accord. Et bah, par exemple, pour avoir aussi d'autres témoignages, quel style vous jouez, par exemple ? Qu'est-ce que vous... est-ce qu'il y a un style où vous jouez plus tellement dans la musique d'Ardèche, puisqu'il y a des rigodons, il y a des bourrées, des rondes, etc. Donc, quand vous jouez, qu'est-ce que vous jouez ?
Alors, pour l'instant, le projet est assez nouveau, donc on a essayé de prendre différentes danses.
Oui.
On a effectivement un rigodon, on a aussi une bourrée trois temps, ce qui est obligé. Après, les autres morceaux qu'on a, on est parti de chants et pas forcément de musique instrumentale qui était déjà à danser. Et on a tordu les chants parce que des fois, ils n'étaient pas créés pour la danse. Donc on a un peu transformé la rythmique ou rallongé des phrases.
D'accord.
On a un peu bidouillé justement les collectages pour que ça devienne notre musique à nous et qu'elle soit dansable comme on le sentait. On a essayé de ressentir ce qu'était le chant, la mélodie et à quelle danse ça pouvait convenir. Voilà.
Voici interprété par La Bobicose, la mazurka des Lourdeaux.
Ils se sont dit les uns aux autres pour qui le coucou a chanté. Et le plus jeune a dit par ma foi, je crois qu'il l'a chanté pour moi. Mes chers amis, pour n'avoir point d'erreur, n'en faut aller chez un procureur, chez un avocat de la ville, qui nous dira la vérité, qui nous dira dans sa grande science pour qui le coucou a chanté. Parapapa, papapa, papapapa, parapapa, parapapa, papapa, parapapa, parapapa. Trois jeunes lourdeaux s'en sont allés au marché. Ont entendu le coucou chanter. Ont entendu le coucou chanter. Le coucou, 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 pour qui chante le coucou.
Procureur les ayant entendus, demanda à chacun 10 écus. Le procureur, la main ouverte, les 30 écus à empoigner. Allez-vous-en, dit-il, mes grosses bêtes, sera pour moi qu'il a chanté. De chagrin, puisque nos femmes sont si sages, ayons la joie dedans le cœur. Qui aurait cru qu'un oiseau si sauvage ait chanté pour un procureur?
Ah, mais je trouve ça super intéressant parce que c'est vrai qu'on parle, vous êtes musicienne et musicien, mais c'est, j'aime bien ce que vous soulevez, c'est-à-dire le rapport avec la danse. Parce que la plupart des professeurs que j'interviewe, etc., parlent souvent des problèmes de rythme qu'ils rencontrent. Et je me dis que peut-être que si on avait cette approche avec la danse, peut-être que ce genre de problèmes pourraient peut-être s'estomper. Enfin, c'est une...
Ça peut être une méthode, oui, de danser ce qu'on joue. Parce que on a... oui. C'est vrai qu'en... Enfin, moi, j'ai eu un parcours classique et quand on est au conservatoire, on apprend très, très, très rarement à jouer ou à bouger sur la musique qu'on interprète.
D'accord.
Donc, on la comprend pas forcément à mon sens. Mais parce que moi, les musiques traditionnelles, les musiques qui se dansent, ça me parle.
Oui.
Après, c'est mon rapport au corps par rapport à la musique. Et je sais que tout le monde ne fonctionne pas comme ça.
Ouais, mais apparemment, pour le rythme, c'est assez unanime. Tout ce que j'ai eu, à chaque fois, me disait exactement la même chose.
Ok.
Que problème de rythme.
Problème de rythme. Après, il y a des très grands musiciens qui ne savent pas danser et qui jouent très bien.
Oui, oui, bien sûr. Bien sûr.
Mais c'est sûr que si on sait danser la musique, on ne l'interprète pas de la même manière.
Ouais.
Et ouais, on est en rythme, on a les accents.
Ouais. Donc vous travaillez bien avec les danseurs, enfin en tout cas avec le mouvement de la danse.
On le fait nous en fait, on prend une mélodie, on se dit bon alors on essaye, on fait les pas, il y en a une qui chante, l'autre qui fait les pas. Et...
Ah ouais mais c'est génial.
Et on s'entraîne comme ça pour voir si ça marche. Alors on a encore des ratés des fois parce que entre ce qu'on fait en répétition et ce qui se danse en bal folk, il y a les histoires de tempo.
Ouais.
Des fois, en bal folk, le tempo est quand même plus élevé que quand on est en répétition chez nous sur une danse. Donc,
D'accord.
On a eu quelques modifications. Il y en aura d'autres. Voilà. C'est,
D'accord.
C'est en okay. création.
Et quelqu'un d'autre, alors, pour parler de, du style. Alors, je ne sais pas si mon terme est impropre. Est-ce qu'on on parle de style ou on parle de dans la musique ardéchoise ou est-ce qu'on parle de type de danse?
Là, dans le projet La Bobicouse, tu parles en particulier ou dans?
Pas forcément. Quand on parle de la musique,
dans ce que je fais moi en général.
Oui. Dans ce que tu fais en général, est-ce que je dois parler de par exemple que de Rigaudon ou est-ce que je dois parler de d'autres choses, d'autres types de danse? Comment je dois m'exprimer si je dois parler de la musique ardéchoise?
Ah d'accord, ok. je crois que je comprends la question.
Bon, c'est moi qui n'étais pas clair.
Mais le style, si tu parles de Rigaudon, c'est hyper précis, c'est une danse,
oui.
C'est pas un style
oui.
En fait.
Tout à fait.
C'est comme tu pourrais dire une valse ou voilà, c'est une danse en particulier. Comme si tu disais un menuet, c'est pas un style. C'est, le style, ce serait la musique traditionnelle, populaire ou orale.
D'accord.
De l'Ardèche.
Comme nous l'a précisé Patrick Mézilier.
Voilà.
D'accord. Ok.
Donc,
Ok, non, d'accord.
Voilà, et,
c'est précis. Et donc, qu'est-ce que tu joues en particulier alors?
Alors, moi, qu'est-ce que je joue en particulier? Moi, j'aime bien. Moi, ce que j'aime dans ce métier, c'est faire plein de choses différentes. Donc, je fais vraiment des choses très différentes. J'ai une formation baroque à l'origine que j'utilise pas.
En fait. D'accord.
Pas vraiment, enfin, que j'ai gardé dans ma façon de jouer, dans mon interprétation, mais je ne joue pas vraiment du baroque. J'ai fait pas mal de musique irlandaise et pas mal de musique médiévale aussi, donc je continue encore à faire de la musique médiévale, à animer des ateliers dessus, sur la danse et la musique médiévale. Voilà, et je fais aussi du théâtre, en fait, du théâtre chanté, du théâtre de rue.
D'accord.
J'aime beaucoup faire ça. Et là, avec la Bobicouze, je fais donc de la musique traditionnelle ardéchoise.
Ok.
Parce que quand je suis arrivée en Ardèche il y a presque 20 ans maintenant, j'ai rencontré Patrick.
D'accord.
Qui m'a initiée à cette musique-là. Et voilà, ça fait depuis ce temps-là qu'on joue ensemble, en fait.
Ok.
Et oui, ça fait longtemps. Ça passe tout.
Rassurez-vous, ça se voit pas. tout va bien.
C'est gentil. Et voilà, et moi, j'aime beaucoup cette musique. Et puis, en fait, j'aime bien aller dans le fond des choses. Ouais. Quand j'ai fait de la musique médiévale, je voulais pas faire de la musique traditionnelle qui ressemblait à du médiéval. J'ai eu envie de vraiment creuser qu'est-ce que c'est qu'un morceau médiéval, aller voir ce qu'on avait comme trace de ça. J'aime bien aller au fond des choses, et du coup avec Patrick ça s'est plutôt bien tombé. Il m'a initié à tout ça, et j'aime beaucoup la musique ardéchoise, et je trouve ça dommage que personne n'en joue.
Bah oui.
Et l'autre truc que j'aime bien faire, c'est une fois que je suis allée au fond des choses, j'aime bien les exploser, enfin
ouais,
les
diviser,
les transformer.
Ouais, les transformer.
Donc c'est comme ça qu'est née l'envie de la Bobicouze, de repartir de toute cette tradition.
Oui, ça serait bien d'expliquer, oui, c'est quoi la Bobicouze.
Alors la Bobicouze, comme labo comme laboratoire, ouais. Et Bicouze, c'est la mèche de cheveux rebelle en occitan.
D'accord.
La Bobicouze, c'est un duo, du coup, avec Camille.
Oui.
Et moi.
Oui.
Où, donc on fait de la musique traditionnelle ardéchoise à danser.
D'accord.
Donc basée sur des collectages. Et ouais. Qu'on tord, qu'on modifie, qu'on chante principalement. On utilise aussi des instruments, on utilise des bidouilles, des trucs qui font des bruits, des mignonnettes dans lesquelles on souffle.
C'est quoi une bidouille ?
Des bidouilles, c'est tout ce qui... C'est des grelots, c'est des petits trucs qui font du bruit, quoi.
D'accord.
Du bruitage, voilà. On utilise tout ce qui sonne. Et Camille fait du beatbox aussi.
Ah ouais ?
Et on a des machines, de boucle sur scène. Donc
des loopers ?
Des loopers, on loupe en live.
D'accord. Voilà.
Donc exactement ce que j'aime, c'est-à-dire partir de la tradition en sachant d'où ça vient et le changer complètement.
D'accord.
Voilà.
Ah, excellent. Mais il n'y a pas des ponts justement entre tout ce que tu as fait, puisque je me dis que dans la musique baroque, c'est pas mal de recherche aussi quand on doit interpréter un morceau.
Oui, tout à fait.
Et donc, musique irlandaise aussi. Et donc, c'est un peu la même approche. Est-ce qu'il y a des ponts pour arriver jusqu'à la musique d'Ardèche ou pas du tout ?
Des ponts entre la musique baroque et...
Ouais, par exemple.
Ou pas du tout.
Si,
bien sûr, parce que la musique baroque est très inspirée des musiques traditionnelles et populaires. Donc, il y a toujours des ponts.
D'accord. Ok. D'accord. Et toi, Maëlle ?
Moi, finalement, j'ai un parcours assez similaire à celui d'Agnès sur certains points. C'est que j'ai commencé la musique, ces styles de musique-là, j'ai commencé par la musique médiévale. Bon, avant ça, je faisais du métal, ça c'est un peu hors catégorie. Mais j'ai découvert la musique médiévale, et c'est en écoutant ces sonorités-là que je suis remontée par des groupes comme Malicorne ou La Bamboche, par exemple, de sonorités acoustiques qui me rappelaient un peu la musique médiévale, mais en même temps qui étaient plus rythmées, plus dansantes, chantées dans des langues qui me paraissaient un peu plus compréhensibles. Et puis c'est là que j'ai rencontré Patrick aussi il y a une vingtaine d'années, quand il habitait encore dans la Drôme d'ailleurs, et puis on s'était rencontrés à l'occasion d'un mémoire de master que j'avais fait donc en linguistique. D'accord. C'était dans un labo de dialectologie et patrimoine régional à Grenoble, et je faisais un mémoire sur une étude comparative de chansons du Dauphiné et du Vivarais.
D'accord.
Et c'est à ce moment-là donc que j'ai rencontré Patrick, avec qui on a échangé justement sur son expérience de la musique, ses recherches, ses collectages. Parce que depuis tout à l'heure, on parle tous de collectages, mais c'est vrai que la grande majorité des collectages et des morceaux sur lesquels on travaille aujourd'hui, qu'on écoute, etc., le matériau, disons, d'origine sur lequel on travaille, ce sont des collectages réalisés par Patrick et puis par quelques autres collecteurs en Ardèche et dans les environs. Mais en fait, ces collecteurs-là se comptent sur les doigts de la main. C'est un matériau extrêmement précieux.
Pour ceux qui
ne connaissent
pas, c'est quoi un collecteur ?
Alors ça, Patrick l'expliquera beaucoup mieux. D'accord. Que moi. Je lui passerai le micro juste après.
Oui,
ou
oui.
Annette, exactement, bien sûr.
Ah bah oui, oui.
Mais juste pour finir là-dessus, moi, aujourd'hui, comme je ne joue pas ces musiques d'Ardèche sur scène en ce moment, par rapport aux musiques de Méditerranée orientale que je joue... Moi, ce que je recherche vraiment là-dedans, en fait, c'est ce qui me fascine, c'est ce lien entre les musiques d'ici et les musiques d'ailleurs. Et en fait, Patrick parlait tout à l'heure de rythme impair sur des rigodons ou des vires du Coiron, donc du massif montagneux qui est juste au-dessus de chez moi. Ouais. Donc, on se retrouve avec des chansons, par exemple, avec des rythmiques en 5 temps qu'on ne retrouve quasiment jamais en musique en France, en musique occidentale au sens large, disons, mais qui sont extrêmement courants en musique grecque ou en musique turque, par exemple. Ouais. Et moi, c'est ça que je trouve absolument fascinant, en fait, c'est de m'intéresser à des musiques issues de cultures lointaines, de cultures qui ne sont pas la mienne, et en même temps de voir qu'il y a plein de passerelles, plein de points communs avec les musiques de chez moi, de mon village ou des villages d'à côté. Et il y a vraiment ces passerelles-là, je trouve ça absolument fascinant parce que ça confirme vraiment l'universalité du message que véhicule la musique.
D'accord.
Et c'est vraiment ça qui me passionne dans la musique.
Mais c'est passionnant. Ouais, ouais. D'accord. Bah, ah oui, on va venir à... Ah ouais, ouais. C'est quoi le collectage, d'où oui, ça vient tout ça.
Et je voulais peut-être reprendre par rapport au rythme, parce que je trouve que c'est vraiment intéressant de découvrir autrement, parce que
oui.
Moi, j'ai aussi fait de la musique enfant, j'ai fait... du piano pendant des années, et en fait pour moi j'avais juste un métronome. J'avais même pas entendu parler qu'il y avait des rythmes.
Oui.
Donc c'est 1, 2, 3 ou 1, 2, 3, 4 ou enfin, oui. Même au-delà c'était déjà rare.
C'est ça.
Et j'ai commencé l'accordéon diatonique à 50 ans parce que j'ai entendu Marc Perron. Ceux qui connaissent un peu ses musiques, c'est quelqu'un qui a un parcours qui venait d'Italie, où on connaît bien l'accordéon, mais qui a remis en route beaucoup en France cet instrument. Et j'ai commencé à en jouer. Et on pense au début, c'est simple.
et
j'arrive,
en fait...
voilà, 10 minutes, j'ai joué une petite valse, c'est super. Alors qu'au piano, dans le temps où je jouais, on travaille des heures. Et puis, c'est toujours assez difficile de faire quelque chose qui tient debout. Sauf que, en fait, plus on rentre dans ces musiques, plus ça se complexifie. Et j'ai découvert qu'il y a des rythmes, effectivement, et que j'y connaissais rien du tout, mais rien.
Oui.
Et tout reste à apprendre. Et pendant plusieurs années, j'ai animé un atelier danse. Donc, c'était mon apprentissage. Difficile, parfois.
Oui.
et après, donc, c'est aussi par le biais de Patrick, j'ai découvert la musique d'Ardèche.
D'accord.
Et c'est encore un peu particulier sur l'accordéon diatonique, on est obligé de penser le rythme.
Okay.
On ne peut pas juste faire une petite mélodie parce que c'est un instrument rythmique, je tire ou je pousse en fonction du rythme que je dois produire.
Oui.
Et je trouve que c'est un long chemin.
Bah oui, forcément.
J'ai la chance de jouer avec des musiciens qui jouent bien, donc ça me pousse un peu, voilà. Et c'est aussi toute l'ambiance qu'on trouve dans ce milieu-là, beaucoup de gens qui se retrouvent dans une convivialité.
D'accord.
Et je trouve que ça très important, c'est un aspect pour moi qui compte, parce que c'est un loisir pour moi.
Et oui, mais
je pense que c'est beaucoup de gens qui jouent parce qu'ils trouvent ça.
C'est vrai qu'on peut se poser la question, souvent même, je ne veux pas tirer à boulet rouge sur les conservatoires, c'est pas du tout le truc, mais c'est vrai qu'on voit qu'on apprend souvent en solo, on est dans une salle, on fait son truc, et peut-être qu'effectivement le collectif, on l'oublie un peu, c'est ce qui nous, ce qui nous pousse, qui nous stimule.
Cette musique à jouer
qui nous,
tout seul, c'est, oui. Bon, oui, c'est indispensable d'apprendre des choses seul, mais ça n'a aucun sens, on ne peut pas
oui,
rester
exactement.
Tout seul dans son coin, ça, aucun sens.
Oui, oui.
Voilà.
Et justement, ouais. Alors on parlait du collectage.
Et, oui,
puisque,
du coup, alors, ce collectage, ouais, je
parce que,
là-dessus.
Oui, enfin, moi, il me semblait, alors, pour les danses et le rapport danse et musique, il y avait en fait deux gros ouvrages. Il y avait celui de l'orchestrographie, qui était de Tono Arbo, puis il y avait aussi Arena. Voilà. Donc
vraiment dans l'histoire. Là.
Oui, oui. Donc j'ai l'impression que c'est à chaque fois, ce sont les deux livres qu'on de référence. Bon, après, effectivement, c'est ancien. On est au XVIe siècle.
Dans l'histoire des formes musicales qui sont, comment on pourrait le dire, qui sont dans la tradition française. On est des Occitans, donc ça m'ennuie toujours de dire français, mais parce qu'on est vraiment du Sud. Ouais. Voilà, mais on retrouve à peu près les mêmes distinguos, c'est-à-dire, si tu veux, il y a ce qu'il y avait avant la Révolution française comme danse.
Oui.
Donc là, essentiellement, dans les villages, ce sont des danses en rond.
Oui.
C'est très symbolique, d'ailleurs, ça célèbre l'unité du village. Donc on trouve des rondes, des branles, bon. Qui sont beaucoup chantées. Alternés, enfin, etc. Et après la Révolution, tu commences à avoir à apparaître des danses où la sociabilité n'est pas la même, c'est-à-dire on se rend plus vers les couples.
Oui.
On va avoir la contredanse, on va voir apparaître les quadrilles,
etc.,
etc. Et puis après, tu vas avoir quelque chose qui va être intéressant, c'est que le parcours dans la danse va être plus important que le pas lui-même. Et ça, c'est parce que il y a une symbolique sociale dans le parcours.
Est-ce qu'on peut préciser
parce
pour le parcours?
Si tu veux, dans les danses traditionnelles, le pas de base est très important. Et par exemple, le rigodon, par exemple, ça s'est à peu près perdu parce qu'on a perdu le pas de base. Parce que c'est un pas de base, en fait, très virtuose, qui demande des capacités d'improvisation. Après, avec ce pas, par exemple, un pas sautillé, droite, gauche, tu peux faire des figures. Tu peux aller vers ta partenaire, retourner, etc. Ça, c'est un parcours.
D'accord.
La danse, elle symbolise aussi comme un parcours social, en fait. Hein.
Ok.
Tu vois, toi, tu danses en rond. Quand tu danses en rond, tu exprimes que socialement, tout le monde est uni. Hein.
Oui.
Le jour où tu ouvres la ronde, tu vas vers une seule personne, qu'est-ce qui se passe?
D'accord.
Tu dis autre chose, etc. Le quadrille, par exemple, c'est typique. Hein.
C'est quatre couples.
Voilà. Mais après, la danse avait toujours une valeur significative. Il faut comprendre ce qu'on appelle la fréquentation dans les communautés paysannes. C'est-à-dire le fait que les garçons avaient du mal à rencontrer les filles.
Oui.
Parce que dans les villages, tout était au vu de tout le monde. Hein. Dès que Robert a commencé à s'intéresser à Jeannette,
oui, on commence à parler.
Attends, fais gaffe. Parce que, voilà. Donc la danse était ce moment où les gens. Par exemple, il y avait des rondes de fréquentation, c'est-à-dire des rondes de mai, où les jeunes garçons, les jeunes filles se mettaient dans les cours de ferme.
D'accord.
C'était des rondes comme ça. Et un à un, deux à deux, ils se croisaient, ils se touchaient, etc. Voilà.
D'accord.
Et devant le regard des parents qui disaient voilà. Poche pas trop près. Voilà. Donc là, la danse a vraiment une valeur sociale. Et après, on a évolué vers les danses de couple, hein, essentiellement, qui sont arrivées donc, à partir du milieu du 19e. Voilà. La valse, on n'est pas sûr, parce qu'il y a des formes de la valse qui sont là bien avant. Hein. Mais bon, mazurka, polka,
voilà,
valse vienne, enfin, après, c'est l'enchaînement. Hein. Après, il y a les influences, très rapidement, il y a les influences des îles, hein, très tôt,
oui.
Hein, très tôt, même sur ce qu'on appelle les Congos, hein, tout ça, etc.
Oui, j'ai vu ça.
Après, tu as carrément, après ce qui vient, tango.
Il
y a les influences américaines aussi, très importantes.
Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai interrogé un historien qui s'appelle Bernard Camier, qui travaille en Guadeloupe.
Écoutons Bernard Camier dans l'émission de la Muse du jour datée du 23 octobre 2021, musique et esclavage. Il nous parle de cet ancien esclave qui inventa le quadrille.
Il suffit d'aller sur Gallica, vous allez voir, vous allez trouver 5 pages de Julien Clarchy qui publie les quadrilles parce qu'il est devenu maître, chef d'orchestre des bals de Napoléon à la cour de Napoléon. Donc voici quelqu'un qui était esclave, qui vient de Curaçao. Julien Curaçao, qui est un brillant violoniste, ouais. Qui est noir. Alors, on pourrait même presque dire, dans les termes d'aujourd'hui, qu'il est noir-noir, puisque son père est noir et sa mère est mulâtresse, ou le contraire. Mais en tout cas, c'est mulâtre, noir, ouais. Puisqu'il est griffe. Donc, c'est la désignation à Saint-Domingue de quelqu'un qui a cette ascendance-là, et qui est chef des bals à la cour de Napoléon, et qui va fonder le quadrille tel qu'on l'utilisera après.
D'accord.
Avec l'ordre précis, on trouve dans ces... Alors, il y a les quadrilles détachées. Il y a plein de danses. Et donc, il va définir l'ordre des danses qui va être conservé jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, en Guadeloupe, on danse le quadrille.
Oui.
Je fais un peu de quadrille. Et on danse le quadrille exactement dans l'ordre dans lequel il a été défini à l'époque. Avec pantalon, oui, l'été, la poule, pastourelle. Et on revient à l'été pour finir.
Ce qui est intéressant dans les formes de danse, c'est comme sur la musique, c'est qu'à un moment donné, on peut supposer qu'il y avait des espèces de conservatoires spontanés, populaires, chez les danseurs, chez les musiciens, et que les influences bourgeoises, par exemple, ils copiaient une danse de salon, et très rapidement, elles étaient transformées, elles devenaient autre chose.
D'accord.
Ils en faisaient... Tu vois, c'est comme aujourd'hui ce que pourraient faire des jeunes qui prennent un menuet classique et puis ils le transforment en rap, je ne sais pas quoi.
Ouais.
C'est ce qui se passait en fait. Hein, d'accord. Tu as une société qui est très divisée au niveau du loisir. Le peuple se mélange pas avec sous l'Empire, tout ça. Tu as des passages, mais c'est très cloisonné. Et le peuple, il est capable de refondre. Hein. C'est le cas, par exemple, de la musique de violon. C'est assez étonnant de voir. Moi, par exemple, j'ai une version absolument extraordinaire de la tonkinoise, qui est un truc complètement bidon. On dit de Jocelyne Bakker, qui est sympa d'ailleurs, Jocelyne Bakker de parenthèse. Mais j'ai un violoneux qui revisite la tonkinoise, mais modalement. C'est-à-dire qu'il enlève toutes les septièmes majeures, il fait une compagnie d'autres choses. Au début, tu ne reconnais pas. Tu te dis, c'est la tonkinoise.
Ah.
Progressivement. Et tu comprends dans sa tête, il a une moulinette mode de sol.
D'accord.
Et chaque fois qu'il voit un truc en majeur, pof, mode de sol, pof, etc.
Okay.
Et donc, il pense, en fait. Ça, c'était passionnant, parce que moi, j'essaie de voir comment le type, il pensait musicalement, mélodiquement. Tu vois.
Oui.
Alors, tu lui joues un truc... Il a fait autre chose, quoi.
D'accord.
Ça, c'est assez rigolo, quoi.
Ouais, ok.
Donc il y a des couleurs comme ça. C'est ça qui est intéressant dans ces musiques. C'est des couleurs qu'aujourd'hui, malheureusement, on retrouve que dans ces musiques-là, quoi.
Ouais.
On est plus dans des choses normatives aujourd'hui, on n'est pas.
D'accord, ouais, donc ça évolue moins finalement, même.
Je sais pas peut-être. Que ça évolue moins, mais il y a une espèce de. C'est un peu comme l'art brut, tu vois. Il y a des choses qui nous touchent et qu'on a envie de reprendre. Et de, voilà. Alors, on est plus dans la société rurale, donc on ne peut pas les reprendre de la même manière. On va pas. Si je prends un air dissonant de marche de Coscri, par exemple, du plateau Arléchois, qui jouait le jour où il partait pour 7 ans pour l'armée, donc les types, ils avaient envie de faire un grand défilé dans le village, de boire quelques coups avant de partir. mais quand tu reprends. Ça, tu n'es pas du tout dans le même contexte. Tu vas pas partir 7 ans à l'armée, donc tu fais tout à fait autre chose. On fait un arrangement avec la flûte de Agnès, par exemple, on fait autre chose, tu vois, la contrebasse.
Pas, d'accord. Voilà.
Mais c'est une musique qui le touche encore, parce qu'elle a quelque chose, une couleur qui parle, quoi.
Oui, et puis contrairement à ce qu'on peut croire, c'est ce que vous tous vous montrez, c'est que ce n'est pas une musique figée. C'est
non,
surtout
c'est
pas.
Non, c'est même le contraire. C'est-à-dire. La tradition, c'est une espèce d'éternel renouvellement, mais pas de la forme, en fait. C'est-à-dire que les formes restent assez solides. Tu vois, les rigodons, les... C'est peut-être un peu la question qui se pose aujourd'hui dans le bal folk, c'est-à-dire qu'on est allé un peu à la limite, souvent, de la connaissance des formes, ce qui fait que c'est plus ou moins dansable, des fois. Alors, ça pose des problèmes, mais enfin, il faut que les choses se fassent, il faut que les gens échangent et retrouvent des repères, quoi.
D'accord.
C'est comme ce qui s'est passé quand, par exemple, les musiciens ont inventé la salsa.
Oui.
Ils ont pris du son, ils ont pris des musiques américaines. Au départ, là, ils disent non, c'est ça. Puis progressivement, ils ont construit quelque chose. Quoi.
Oui. La fameuse sauce.
Voilà, parce que dans la folk, il va sortir une nouvelle danse.
Oui, d'accord. Ah, mais je l'ai coupé, elle allait parler du collectage.
Oui, on était parti. Oui, oui. Du coup, on s'est éloigné du collectage.
Oui, oui, on a fait une migration.
Oui, je vous ai dit que j'avais un peu animé dans un atelier danse. On dit, bon, telle danse vient de telle région, telle ça. Puis. On écoute un peu pour savoir un peu quels sont les phrasés et tout ça. Bon, ça, j'avais bien intégré, mais quand je suis partie sur le plateau Ardéchois avec Patrick pour essayer de rencontrer des gens en se posant la question, qu'est-ce qui reste aujourd'hui de ces personnes qui portent ces musiques, ces chansons, peut-être aussi d'autres dits. Est-ce qu'il y a encore des gens pour qui ça représente quelque chose et quand on les rencontre, et j'ai vécu quelque chose de très fort que je ne m'attendais pas, parce que c'est des gens qui portent leur propre culture, et en plus, ils ont un peu du mal à penser que ça avait une certaine valeur.
D'accord, oui.
C'est presque dévalorisé à leurs propres yeux, alors que pour nous, c'était...
C'est un trésor,
Et on avait découvert deux frères qui dansaient, entre autres. On avait discuté, ils ont chanté un peu, tout ça, c'était très sympa. Et puis, pour finir, nous, on dit, on joue un petit truc pour vous remercier. Donc, c'était une bourrée. Et alors, ces deux frères se lèvent d'un bond, ils se mettent à danser, mais... extraordinaire, quoi. Voilà. Donc, il y a des choses qui étaient très fortes qu'on a vécues pendant ces collectages et il s'est créé des liens avec ces personnes.
Bah alors, concrètement, comment vous faites un collectage, alors comment ça se passe?
La génération des gens qui étaient porteurs de la tradition, c'était plutôt les gens qui étaient nés avant 14. Alors que maintenant, il n'y en a plus beaucoup. moi, j'ai collecté des gens qui étaient nés en 1890, même, je me rappelle, je crois. Voilà. Mais il y a des régions en Ardèche, et une particularité de l'Ardèche, il y a des régions en Ardèche, dont le plateau Ardéchois, où la transmission s'est faite pour des raisons économiques particulières. C'est-à-dire que le Bas Vivarais, la Basse Ardèche, a été beaucoup plus déprimée économiquement avant l'arrivée du tourisme. Et donc les structures sociales, si tu veux, les gens n'avaient pas les moyens de transmettre les fermes, etc. Donc la culture qui allait avec, parce qu'il faut bien comprendre, cette culture, elle est portée par la ruralité. Hein. Quel était le boulot des musiciens à l'époque? Essentiellement, c'était les vogues, les mariages, les choses comme ça. Donc il faut que chaque fois que les clans paysans disent... on veut de la musique traditionnelle pour le mariage de notre fille. Moi, j'ai joué dans les mariages comme ça pendant des années. Jouer dans les mariages paysans, alors on te disait de telle heure à telle heure, il fallait faire la bourrée, machin, le truc, tu vois. Ça faisait partie du voilà. Et ça, sur certains coins d'Ardèche, c'est resté vraiment relativement vivant jusqu'à ces dernières années. Voilà.
D'accord.
Après, le problème qu'il y a, c'est quand même une culture en déshérence, dans la mesure où on n'a pas organisé la transmission. Il faut bien comprendre qu'une tradition, si on n'organise pas la transmission... à un moment donné, elle va disparaître. Il n'y a pas de... C'est normal. Ça fait partie de... C'est très, très rare, les cultures qui restent en place. Si on prend, par exemple, l'exemple de l'Irlande, l'effort des Irlandais depuis le début du siècle pour collecter leur culture, la transmettre, il est absolument énorme. Faut imaginer que pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant que tout le monde recevait des bombes sur la gueule à Londres, il y avait des Irlandais qui étaient payés mensuellement pour collecter des chansons.
Ah oui.
Donc toi, la mentalité des mecs, quoi. La guerre mondiale, ils collectaient les chansons. Donc, il faut te dire à quel point ils sont attachés à
leur culture. Oui, c'est ça.
C'est pour ça qu'ils ont conservé la culture.
D'accord.
D'accord. Comment on trouve les gens, c'est pas ça.
Bah oui.
On peut pas juste ok bonjour.
Oui.
Ou chantez-moi une chanson.
Pensez-moi quelque chose. Et un peu plus vite s'il vous plaît. Ouais.
Non, donc il faut trouver des personnes ressources, fait qui peuvent un peu guider, qui savent dans le village il y a quelqu'un. Et sur le plateau Ardéchois, il y a aussi le fait que Patrick avait fait des animations dans les écoles.
D'accord.
Donc les enfants avaient déjà amené du matériel, donc ils avaient fait une soirée où les enfants chantaient tout ça, donc les parents sont allés, les grands-parents sont allés, donc il y a des gens qui le connaissaient déjà. Et une fois ça nous est arrivé qu'un garçon d'une, je sais pas, une vingtaine d'années qui dit « Ah mais c'est vous, monsieur Mazelier, ma grand-mère elle chante, allez l'enregistrer !» Allez, ouais. Bien sûr.
D'accord.
Elle chante très bien, enfin c'était une très belle rencontre et toute la famille chante. Et ils étaient obligés de chanter enfants dans la famille, sinon ils étaient punis.
Ah ouais.
Alors tout.
Encore maintenant c'est le contraire.
Et donc elle a un frère qui est très très bon chanteur, donc on a beaucoup d'enregistrements d'ailleurs qui sont.
Non mais c'est intéressant ce que vous dites. C'est avant toute la famille chante.
Oui.
D'accord.
Et c'est très clanique en plus, donc c'est pas juste une. Une famille monoparentale, ça n'existe pas, je veux dire, c'est des clans de famille.
C'est particulier au monde paysan, parce que le chant est plus qu'un chant, quoi. C'est une reconnaissance de timbre, de la voix, parce que ce sont des gens qui parlent fort, qui vivent dehors.
Ouais.
Et bon, t'es à l'autre bout du chant, et du gueule, « Oh, ma
flèche,
oui. Quoi, moi ?» Et les types se reconnaissent rien qu'au son.
D'accord.
Moi, je me rappelle quand j'étais gamin, il y avait des bergers qui étaient en bas, il y en avait un autre qui était en haut. Ils disaient, tiens, mais il est là-bas, tu le reconnais, j'entends sa voix. Et puis, ils se parlent. Et puis, ils se chantent, d'ailleurs. Ils se chantent.
D'accord. Bon, ben, pour s'appeler, ils se chantent.
Oui, mais dans les Alpes, j'ai collecté, il y avait un type, quand il ouvrait son chalet, chaque année, il se mettait sur un rocher et puis il chantait une chanson. Et la vallée disait, tiens, Robert, il a ouvert.
Mais c'est excellent.
C'était un signal, parce qu'en plus, si tu veux, il utilisait l'espace. Parce qu'il y a des endroits dans la vallée où ça chantait très bien.
D'accord.
Où il y avait des résonances. Voilà.
Okay.
Des connaissances du. Mais le chant est vraiment très important. Aujourd'hui, on ne peut même pas imaginer. Les gens nés avant. Par exemple, moi, j'ai collecté des gens qui avaient passé leur enfance en 1914, avant 1914, comme ma grand-mère. Mais c'était stupide de lui poser des questions. Quand est-ce que vous chantiez? Elle me disait, mais on chantait tout le temps.
Ben oui.
Ils allaient chercher l'eau à la fontaine, ils chantaient. Ils revenaient le soir, ils chantaient la veillée, ils chantaient entre eux en groupe. C'est
complètement naturel.
Parce qu'il faut comprendre une chose, pourquoi ils chantaient? Parce que souvent, c'était des gens qui n'écrivaient pas. Ils étaient très proches des analphabètes, en fait.
D'accord.
Donc, le chant, pour eux, était une reconnaissance.
Ah, c'est bien. D'accord.
Et puis, une manière de stocker la mémoire, tu vois. Donc, ils connaissaient beaucoup de chansons. Et, voilà. C'est une manière de mémorisation, en fait. Mais ils n'avaient pas l'écriture, quoi.
D'accord. Mais ça peut faire le lien avec Camille. Je ne me suis pas planté. ça peut faire aussi le lien avec ce que tu disais auparavant, c'est-à-dire donc toi tu te sers de ce qu'ils ont collecté en gros, et de ça tu t'en fais ton truc, ta bidouille.
C'est ça. C'est exactement ça.
D'accord. Et donc c'est quoi, tu prends tout ce qui est des enregistrements, des écrits, des personnes que tu vas voir, comment ça se passe, comment tu fais ta bidouille?
Alors comment je fais?
C'est quoi la recette?
Alors, bon, je ne sais pas s'il y a vraiment une recette unique, mais avec Agnès,
bien sûr,
en fait,
que non.
Via Patrick, elle a des enregistrements.
D'accord.
De personnes que vous avez rencontrées, du coup. Et ou autre aussi, parce que je ne me rappelle plus, il y en a beaucoup en fait. Et il y a aussi des livres en fait, où il y a les partitions qui sont écrites avec des paroles, ou même ce qui est très intéressant sur les livres, qui est plus précis, c'est qu'ils disent, bah, dans telle région, ils le chantent avec cette version-là, ce couplet, il est changé, dans telle région, c'est ça, ah, on peut faire un lien avec telle chanson en Haute-Savoie, qui est à peu près similaire. Donc il y a des ponts comme ça. Et donc après, nous, on décide qu'est-ce qu'on veut garder de toutes ces versions, quand il y en a plusieurs. Donc les paroles, la mélodie. Souvent, c'est des petites variantes, donc on fait un choix. Et après, en le jouant, on teste, on essaye en chant, en flûte, comment ça sonne, qu'est-ce qui serait mieux, qu'est-ce qu'on peut rajouter comme deuxième voix, comment on harmonise. Et la rythmique aussi, la rythmique pour la danse, du coup.
Ok, mais ils sont où ces livres? Ils existent où? Parce que moi, de la région parisienne, je suis à la bibliothèque, ça m'étonnerait que je les trouve. Hein.
Oui, bah c'est une très bonne question, mais moi, ma source, c'est Agnès.
D'accord, donc on doit avoir une Agnès chez soi, comment ça se passe?
Non, mais c'est...
D'accord, il y en a pas mal.
Sur Internet, ouais.
D'accord.
Bah tiens, je vais passer à Maëlle, vu qu'elle a une réponse très précise.
En fait, le matériau de collectage, c'est quelque chose qui est... c'est tout un travail. Moi, j'avais abordé ça dans le cadre de recherche universitaire, donc il y avait déjà cette espèce d'envie d'apprendre, et en même temps, cette espèce de nécessité de produire un travail, de produire un résultat, d'avancer dans la recherche. C'était pas juste par plaisir, mais en même temps, le plaisir, c'était vraiment le premier prétexte que je m'étais donné pour rechercher tout ça. Et clairement, c'est en rencontrant Patrick que j'ai entendu parler d'autres collecteurs, mais entre plein d'autres, par exemple, on peut citer Jean-Bernard Plantevin, par exemple, dans la Drôme. On peut citer Christian Holler ou Jacques Julien en Ardèche et en Haute-Loire. On peut citer, évidemment, Patrick pour tout ce qu'il va être Ardèche, donc Vivarais, le Dauphiné, donc principalement la Drôme, et puis les Alpes, le Champsaur. Patrick a écrit un livre sur les Renveillés d'Orcières, par exemple, qui est un village du Champsaur, qui est... Le livre est extrêmement intéressant parce qu'on apprend plein de choses et on apprend une richesse. Moi, en plus, Orcières, c'est un village que je connais très bien parce que ma famille avait un chalet dans la vallée et j'y allais tous les hivers sans savoir en fait qu'il se passait ça. Je n'ai jamais entendu de musique là-bas. D'accord. N'ai pas rencontré ces personnes-là, mais en fait, en lisant le livre, je me disais, ah tiens, ça parle de Prapic, ah tiens, ça parle de tel village d'à côté, de Champoléon. Et en fait, pour moi, c'était familier et en même temps, j'ignorais totalement qu'il se passait tout ça là-haut. Et ces livres-là, ces ouvrages, les enregistrements, etc. On peut citer donc des auto-éditions comme Patrick avec l'association L'Écho des Garrigues a édité un certain nombre d'ouvrages, par exemple. La FAMDT Ardèche, la fédération, a édité aussi a participé en tout cas à la création d'autres ouvrages de collectage, comme l'album Dame d'Ardèche de Christian Holler avec des collectages de Christian et de Jacques Julien, entre autres, qui est paru en novembre dernier, donc novembre 2021. Et puis ben voilà, Patrick, il avait ses collectages dont il parlera parce qu'il en a devant lui sur la table. On a des supports en fait, voilà, on a des CD, on a des livres, on a un DVD qui sont des outils anciens parfois par rapport à la date de collectage, mais en tout cas qui ont été réactualisés et qui ont été aussi qui ont évolué en fonction des moyens. Parce que si dans les années 70 on enregistrait avec des cassettes ou plus tard avec des mini-disques par exemple, aujourd'hui qui a un lecteur cassette chez lui? Donc en fait on va rééditer des CD, des DVD, beaucoup de vidéos sur internet, beaucoup de matériaux sur internet, et ça a été un outil extrêmement intéressant. Donc à partir de ça, en fait, c'est un travail d'archéologue. Il faut aller chercher, reconnaître des noms, entendre parler d'ouvrages, contacter des fois les collecteurs eux-mêmes pour pouvoir acheter le livre ou l'album. Mais des fois, ça prend des années en fait pour se faire une bibliothèque de collectage.
D'accord.
Et ça prend encore plus de temps pour se faire une bibliothèque de réinterprétation de ces collectages, principalement parce qu'il y a finalement peu de groupes qui retravaillent sur ce matériau-là. En tout cas, en Ardèche, évidemment, la Bobicouse fait un super travail là-dessus, par exemple. Mais dans d'autres régions, dans le Centre-France, on a des associations comme les Braillots en Auvergne, par exemple, qui ont beaucoup travaillé là-dessus. On a la DMT, je crois, à Toulouse, en Occitanie aussi, qui a fait des publications. On a des groupes jeunes et moins jeunes d'ailleurs, qui vont récupérer ces musiques-là et soit qui vont les réinterpréter en restant aussi près que possible de la tradition, soit qui vont, comme la Bobicouse, les réinterpréter en mélangeant d'autres influences, que ça soit des musiques actuelles, des musiques électroniques, du rock, pourquoi pas, comme on voit les groupes de rock celtique par exemple. Oui. Bon, c'est un exemple un peu générique parce que on connaît bien.
Parce que ça parle à tout le monde.
Ouais. Parce que ça parle à tout le monde. Mais en fait, voilà, on prend une tradition et on la remet un peu au goût du jour pour qu'elle parle à un public qui aurait pu se dire à la base, oh ouais, musique traditionnelle, ça va, c'est des papis qui jouent la bourrée dans un coin, c'est pas intéressant. En fait, si. Ça dépend le médium par lequel on aborde cette musique.
D'accord, ah, c'est super. Et donc voilà, donc vous prenez ce qui a été collecté, vous le mettez à votre sauce, comme on parlait pour la salsa, etc. Et comment, et après le rapport avec la danse, est-ce que vous allez voir des danseurs, est-ce que vous comment ça se passe, puisque justement vous faites aussi ce travail là d'après ce que j'ai compris?
Ça peut être parler de l'ouvrage et des albums là peut-être justement, ouais. Qui sont en fait notre influence de base. Enfin, moi j'ai appris les deux CD de Rural Café, ouais. Par cœur, et c'était ma référence.
D'accord.
C'est-à-dire que on a fait partie d'un mouvement qui part au début des années 70, et puis c'est la redécouverte du folk.
Oui.
Donc moi j'ai participé à je sais pas combien de groupes. Bon. Alors il y en a un en particulier où justement on rejoignait aussi les traditions de la Méditerranée, c'est Arco Alpine, c'était autour de la musique de l'arc alpin. Et donc il y avait des violonistes, il y avait des rigodons aussi qui se retrouvent en Ardèche. Et après, j'ai travaillé, donc j'ai fondé un groupe qui s'appelle Rural Café.
Oui.
Et on a joué il n'y a pas si longtemps, dont Agnès fait partie.
D'accord.
Et on fait encore quelques trucs. Bon, mais moi, je suis maintenant, comment dire, pas en stand-by, mais je suis en vitesse lente.
Voilà, on n'y croit pas.
Je suis occupé aussi parce que je m'intéresse beaucoup depuis des années à l'improvisation,
oui.
À la musique improvisée à partir des musiques traditionnelles. Voilà.
D'accord.
Donc là, en ce moment, je travaille avec des musiciens manouches. Et on retrouve d'ailleurs des modes qui sont en Ardèche dans la musique manouche. Enfin bon, voilà, c'est compliqué.
Oh, mais alors c'est quoi, voilà. Non, vous passez trop vite.
Non, mais il y a
C'est quoi les modes qu'on trouve le plus en Ardèche alors?
On retrouve des modes binaires mélodiques, on trouve des modes éoliens qu'on va retrouver dans beaucoup de folklore. Il y a des parentés dans les échelles musicales et il y a des parentés dans les phrasés. C'est-à-dire que si tu veux. En gros, dans les musiques populaires, il n'y a que deux phrasés. Il y a un phrasé jazz, c'est le phrasé africain, en fait, hein, qui a une approche du ternaire particulière. Et puis le phrasé folklorique européen, c'est celui qui se rapproche le plus de la musique irlandaise, du jazz manouche, de la musique de l'Est, et donc des musiques européennes de l'Ouest.
Ah, mais là, on veut des preuves. Alors, c'est quoi l'héritage africain? C'est quoi, par exemple, pour le phrasé?
Si vous nous chantiez un petit truc. Si tu joues un blues, tu as un ternaire, toi.
Oh, d'accord.
Très loin, très loin. Hein. Un blues de Monk, par exemple, voilà. Écoute la manière dont c'est phrasé, il y a un ternaire qui est très, très loin. Tandis qu'on n'a pas du tout ça, ce genre de ternaire. Il y a un ternaire folklorique qu'on retrouve, qui est plutôt tac-ti-dip-t-tac-ti-dap, tac-ti-dip-t-tac-ti-dap. On va plutôt caler sur 1, 2, 3, 4, 5, 6.
D'accord. Un peu ce qu'on trouve en Irlande.
Oui, par exemple, ça c'est la gigue, la farandole. Qu'est-ce que tu as encore ? Tout un tas de rimes ternaires sont basés sur mes systèmes. C'est l'accentuation sur le 3. Tu as eu apothèque, tout là, tout tap, tout tic, tout lia, tout tic, tap, lia, tout tap, lia, tout tic, pas là, etc.
D'accord.
Ça, tu ne trouves pas dans le jazz, en fait.
Ouais, bah, ok.
Tu pourrais le faire en jazz.
Oui.
Un petit putain.
Ouais. Comme ça, quoi. Ouais. Bon, bah, en fusionnant.
Moi, je me suis aperçu parce que j'ai eu la chance de travailler avec vraiment des très bons percussionnistes, dont Bijam Chimirami, qui est vraiment un virtuose de la musique iranienne. J'ai travaillé avec Karim Ben Salah, qui est un très très bon percussionniste, virtuose de derbouka marocaine.
D'accord.
Avec Roméo Montero, qui est aussi un diplômé du conservatoire à Lyon et tout, un percussion indien pas possible. Donc ils m'ont fait comprendre des trucs en jouant avec eux, quoi.
D'accord.
Ils m'ont dit, ah mais non, mais là tu vois, t'es en avant, là toi, t'en as rien, là, puis voilà.
Ok. Voilà. Ah, excellent.
Et donc on a des rapports comme ça entre. C'est ce que disait Maël, c'est on a quand même un point commun vers la Méditerranée, quoi. Hein.
Ok.
Les Ardéchois sont quand même des Latins, quoi. On est plus méditerranéenne que celte. On a une petite couche celte parce qu'on parle Auvergne et tout ça, mais je pense qu'on est beaucoup plus rythmiquement proche.
D'accord. Mais du coup, quand vous trouvez ces rythmes-là, les deux typiques, est-ce que ça veut dire que on fait une sorte de mise à jour avec les danseurs ? Je prends toujours le truc. Est-ce que ça veut dire que eux aussi du coup, ils doivent s'adapter à la musique qu'ils entendent.
Oui, c'est-à-dire que dans le bal, si tu veux, la musique, elle a beaucoup évolué. Moi, j'ai fait des bals folk depuis les années 70. Donc,
oui, ça a dû changer, oui.
Donc moi, les danseurs, je les ai vus évoluer. Par exemple, la mazurka, ça ne peut rien avoir.
Ouais.
Aujourd'hui, c'est on appelle ça chamallow. Non, quand on... je fais comment, chamallow ou swing, tempo. C'est vrai que les mecs, bon, c'est pas plus mal, pourquoi pas. Moi, j'ai rien contre, hein, si tu vois. Mais ça a évolué, donc en fait, il se passe des choses, quoi.
Oui, oui.
Voilà. La bourrée, par contre, je suis plus triste, parce que ça évolue plutôt, pas dans le bon sens, parce que ça va vers une normalisation, plutôt vers une espèce de valse rapide.
D'accord.
Alors qu'on a une chance d'avoir dans la bourrée, si tu veux, un système tum-tac-ta, 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 tum-tac-ta. On a fait 3 temps pratiquement inégaux, et là, c'est une richesse, quoi. Parce que normalement, on est plutôt doum-tac, et là, on est toum-tac-ta, 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 toum-tac-ta.
Comme une valse.
Un truc presque un peu bebop, quoi.
D'accord.
Qui te prend. Hein, et là, c'est dommage de perdre ça. Mais ça, c'est vrai qu'il y avait des cadences. Il faut comprendre que le bal a une très longue histoire, et le bal traditionnel. Et donc, il y avait des cadences particulières par région. C'est-à-dire, ce que disait Annette, les danseurs qu'on a fait danser, eux, ils ont la cadence ardéchoise et lozérienne, qui n'est pas la même cadence que la Haute-Loire. Donc, tu vois, c'est complexe. Hein.
Oui, oui.
Les gens, ils jouent une autre bourrée en Haute-Loire, tu vas vers le Berry, ça peut rien avoir.
D'accord.
Tu joues une bourrée berrichonne en Ardéchois, c'est quoi ce machin ?
Ok. Vois,
moi, j'ai vu des groupes d'ailleurs de folk qui. C'était rigolo parce que les types, ils annonçaient bourrée. Et dans un village, je me rappelle, je ne dirai pas le nom.
Non,
et ils annoncent bourrée, ils jouent et tout le monde danse la valse. Et donc, ça prouve que le public est vachement intelligent, tu vois.
Oui, parce qu'ils ont
il a compris qu'ils ne pouvaient pas danser la bourrée là-dessus. Voilà.
Bon, d'accord. C'est une anecdote. Oui, oui, oui.
Mais c'est pour dire que ça a évolué, voilà. Bon.
D'accord.
Après, il faut que les choses les prennent le temps de se transformer aussi.
Oui.
Et puis tout le monde a le gros lapin. Ouais.
D'accord.
Par rapport à la langue occitane et le rythme.
Oui, mais c'est ce que disait aussi Maël, ce rapport à l'Occitanie, à la Méditerranée. Si tu veux, la langue occitane, c'est une langue particulière qui a énormément de diphtongues et de triphtongues.
Par exemple.
Oustao. bon, moi, musica,
tu veux dire ?
Et ça veut dire que tu fais.
Ouais, d'accord.
Tu mets 3 accents sur un mot.
Ok.
Bah, tu es un peu comme le brésilien.
D'accord.
Et donc, c'est une langue qui est très facile rythmiquement. Par exemple, très riche rythmiquement, je veux dire. Tu chantes par exemple un saïra bou les gars vous c'est saïra le redekai un saïra bou les gars vous c'est saïra le redatou et le redekai un kalekninga le redatou mais on sera pour vous tralalila etc toi tu fais du rime quoi
oui ouais, bah oui
et voilà c'est des ça veut dire que si tu traduis en français bon ça sera pas pareil voilà
donc c'est pour oui ça oui alors, rythmiquement ça sera certainement voilà, pas pareil
ouais. Donne une petite carte à jouer dans comme langue musicale quoi je pense quoi.
D'accord voilà.
Après, c'est sûr que aujourd'hui, moi, je le parle un petit peu, pas souvent. Je le parlais plus avec ma grand-mère. Mais aujourd'hui, j'ai très peu l'occasion de parler. Je le chante plus que je le parle. Quoi. C'est une langue affective, culturelle. Que
d'accord.
Vraiment parler. Voilà.
Ok.
On peut le regretter, mais bon, c'est comme ça.
Oui, c'est l'évolution. Bah, par exemple, Agnès, qui a peut-être moins parlé. Oui.
Bonjour.
Oui, alors, est-ce que, du coup, tu as dû apprendre les langues occitanes ou des langues d'Ardèche, désolé, je ne connais pas bien, pour faire ton travail aussi, puisque apparemment, vous ne faites pas que jouer, vous chantez aussi.
Oui, on chante beaucoup,
ouais. Ouais, donc, est-ce que tu as dû apprendre des chants dans plusieurs langues différentes?
Eh ben, oui, en occitan.
En occitan?
Ouais.
D'accord.
Parce que le répertoire est assez varié. Il y a des chants français, il y a des chants occitans, il y a des chants qui sont occitans et français.
Mélangés dans la même chanson.
Mélangés dans la même chanson. Donc oui, j'ai appris l'occitan, mais j'ai pas appris l'occitan pour le parler.
D'accord. Plutôt pour le chant.
Ouais. J'ai appris les paroles, en fait, la signification des paroles des chansons qu'on fait toujours dans Rural.
D'accord.
Voilà. Pas mal grâce à Huguette Beton.
Okay.
Qui m'a donné beaucoup de conseils de prononciation. Après, la prononciation, c'est, c'est tout un bazar aussi.
D'accord.
Parce que entre deux bleds côte à côte,
bah, ça change.
Dire ne pas se comprendre, parce qu'on ne prononce pas exactement de la même façon. Mais quand même, la base reste la même. Mais c'est intéressant. Du coup, c'est vrai que c'est une question que je me suis posée assez souvent. Parce que j'ai fait chanter une chorale aussi à Priva pendant quelques années et on partait pareil de collectage que je réharmonisais pour voix. Et du coup, j'ai pris le parti de pas normaliser l'accent et la prononciation. Donc, c'est-à-dire que je partais d'un collectage audio.
D'accord.
Ou alors écrit, mais dont je demandais à entendre comment ça se parlait vraiment dans l'endroit, à l'endroit où ça a été collecté, et on partait sur cette façon de prononcer là.
D'accord.
Qui, du coup, c'était pas exactement la même d'un chant à l'autre.
Ouais. Voilà,
ça, c'était mon choix à moi. J'avais décidé.
De toute façon, on est obligé de prendre une option.
Ouais, on est obligé de prendre une option.
D'accord.
Mais voilà, c'était assez rigolo parce qu'il y avait des occitanophones dans le groupe de chant qui. Ouais, ça discutait beaucoup autour de ça. Ah bon, tu dis ça comme ça, mais moi je comprends même pas cette expression.
D'accord, bah oui.
N'importe quoi, ça se dit pas comme ça.
Forcément, il y a des puristes.
Il y a des puristes, ouais, ouais.
D'accord.
Bien sûr.
Et donc, à partir de ça, tu interprètes les mélodies, forcément.
Oui.
Et tu arrives au rythme. Et à chaque fois, donc ces découvertes-là se font avancer dans ta façon d'interpréter, c'est ça les musiques que tu vas faire. J'essaye en fait de comprendre comment on passe de la tradition à quelque chose de finalement de très sophistiqué dans ce que vous faites.
Bah en fait, même sans aller jusqu'à, comme je disais, tordre un morceau, rien que le fait de bon, déjà ça a été collecté, ça a été écrit, ça a été mis en partition. Donc déjà il y a le parti pris du collecteur, il y a eu un travail, il y a forcément eu une légère modification entre ce qu'il a entendu et ce qu'il a réécrit. Après, moi, je prends la partition, je lis les notes, je chante les paroles en dessous. Une fois que je me la suis mise dans l'oreille, la façon dont je vais la produire, ça aura encore modifié quelque chose.
Oui, d'accord.
De toute
forcément.
Façon.
Oui.
Et après, quand on le travaille à deux ou dans Rural Café, à un nombre variable, ça dépend des fois,
ouais.
On va encore modifier les choses. Parce que on travaille plus, on joue juste maintenant. C'est vachement bien.
C'est fini ça.
Mais on va ajouter notre groove interne aussi. À nous. Ma façon d'interpréter les choses, la façon de Patrick d'aller vers.
Ce qui est normal, oui.
L'improvisation, le swing. Voilà, on va forcément tout remodifier comme ça. Voilà le processus. Mais le processus, il est pas gravé dans le marbre. En fait, il dépend de chaque groupe et de chaque projet. Il y a des individus, en fait.
Heureusement, en fait.
Bah ouais, c'est ça qui est riche.
Oui, oui, bien sûr. D'accord. Mais je sais pas, bon, peut-être que je suis un peu présomptueux, mais est-ce qu'il serait possible d'avoir un petit exemple sonore, puisque vous chantez tous? Je sais pas, est-ce qu'il y a un petit chant commun, quelque chose c'est juste pour moi, c'est juste pour mon kiff. Si vous avez envie, hein, je veux pas vous forcer.
On est en famille.
Voilà, on est en famille. Je vous prends de court, hein. je le sais très bien.
Il y a plus de chat. Il y a plus de chat, ouais. juste avec un micro comme ça en même temps.
Ouais. Non, mais ou sinon je prends. Oh, oui, d'accord. Ok, vois, ça marche. Ouais, ouais, bah vous ferez.
Là, un morceau des filles qui sont déjà bien mixées.
D'accord. Ok. D'accord. Ah bah ouais, bah de toute façon, je vais en plus, je vais prendre en photo.
Puis il y a un livret.
Bon bah alors bah déjà je vais les citer. Donc il y a déjà.
On va faire une chanson.
Oui. Ouais, donc déjà on va citer. Ouais. Ouais, comme. C'est comme ça, c'est juste pour moi, c'est juste pour que je puisse crâner et dire voilà, j'ai des gens que pour moi. Que pour moi. Voilà. Ne vous inquiétez pas, en plus j'ai le truc.
Tu veux pas remettre le pied comme ça, je le tiens
pas.
Ouais,
vas-y. Ouais, bien sûr.
En fait, là, le morceau, le chant qu'on va faire s'appelle Power Pitchot. Et qui ça dit pauvre Pitchot, pauvre petite, ne pleure pas.
Pitchoun, oui, d'accord.
Ouais, okay. Comme Pitchoun, ouais, okay. Ouais, mais exactement. La nichée de merle reviendra.
D'accord. Ok.
Pauvre Pitchotto, ne pleures pas, la niña do merle, la niña do merle. Pauvre Pitchotto, ne pleures pas, la niña do merle, c'est un vola. Pauvre Pitchotto, consolate, la niña do merle, la niña do merle. Pauvre Pitchotto, consolate, la niña do merle, tu no lo ve. Pauvre Pitchotto, ne pleures pas, la niña do merle, la niña do merle. Paura picciotto, ne plores pa, la mia domelle se s'envola. Paura picciotto, consola te, la mia domelle, la mia domelle. Paura picciotto, consola te, la mia domelle, tu non va bene.
Moi j'applaudis. Ah super. En plus, avec les explications d'avant, j'ai l'impression d'avoir tout compris.
C'est pas très compliqué.
Non, mais ça me donne un truc. Je suis content.
Tout ça vient d'une page de ce livre. Enfin, je pense
bon, ben, bah, on va les citer déjà. Alors.
Tu peux le garder, le bouquin, tu
attendras. Ouais, bah, alors déjà, je vais citer Rural Café. Oui. En suivant la draille. D'accord.
Là, ils sont... C'est le bouquin de chanter.
D'accord, bah je ok, je vais photographier un truc. D'accord. Ah, alors pour les collectages, alors il y a Mémoire du plateau ardéchois, chanson, danse et récit. D'accord. Ouais, super. Ouais. D'accord. Ok. Et je vais citer aussi. Alors Ardèche, un pays. Non. D'accord.
À l'intérieur, tu as des chansons, il y a quelques explications.
D'accord. Un livret de plusieurs chansons, une sorte de répertoire, de recueil.
Un disque qui a été fait il y a très longtemps et qui maintenant n'était plus.
D'accord.
Il n'y a que les paroles et les traductions, il n'y a pas les partitions là.
Oui, c'est ce que je vois. Ouais. D'accord. Ok. Super.
C'est une référence pour la Bobicouze, si tu veux.
Ok. Oui, je veux bien. Donc oui, on fera suivre, on les mettra sur à la radio, il n'y a pas de souci. Et juste comme ça, est-ce que vous avez une actualité? Vous allez bientôt faire des concerts, j'imagine que vous êtes tous des concertistes. Alors est-ce que c'est à la rentrée ou vous avez des trucs tout chauds tout prêt à être sorti, à déguster non, vous avez... Pardon?
Dimanche.
Ben, vous allez où? D'accord.
Tiens.
Ouais, alors, qu'est-ce qui se passe dimanche?
Moi, je ne me rappelle plus à quelle heure c'est. C'est le marché artisanal de Beaumont.
D'accord.
Dimanche, c'est quoi? C'est le 31, c'est ça?
Ça va être
31 juillet. Ouais, on joue en quartet avec un contrebassiste, un guitariste manouche. Mais on va jouer quand même de l'art du fonction.
Voilà.
31 juillet à Beaumont, c'est ça. Ouais.
Non, c'est pas grave, on pourra mettre après, il n'y a pas de souci.
17h, voilà.
Ouais.
Après, c'est le 12 août à La Boule.
D'accord.
Pareil, ce marché artisanal. Et puis après, à la rentrée, donc on a les journées du patrimoine avec un bah oui. café. Donc le dimanche 18, là c'est la grosse journée, il y a conférence, musique au village, il y a atelier de chant avec Agnès, il y a violon avec moi, accordéon avec Annette, et il y a langue occitane, danse avec Véronique Éloire. Et on termine par un bal sous la place couverte de Vallon-Pont-d'Arc. C'est un très joli lieu.
Voilà. D'accord.
Tout ça, c'est gratuit d'ailleurs.
Ah, ok. Bah, super. Ah, bah, il faudra se précipiter.
Et après, on va reprendre après nos scènes ouvertes. À
d'accord.
partir de Vallon-Pont-d'Arc, dans les troisièmes vendredis du mois. Il y a une scène ouverte tous les vendredis, avec atelier de 17h à 20h, avec une thématique en général. Ça peut être chanson, ça peut être une danse, voilà.
On est d'accord que tout à l'heure, vous avez dit que tu as dit que tu étais en stand-by, c'est ça?
Oui.
Ok, bon, tout va bien. Ok, bon, bah, quand tu es en activité, ouais, ça doit être... Bon, ouais, c'est ça, ok, d'accord. Okay. Et est-ce qu'il y a un album de référence ou qui va sortir ou des choses qu'on puisse divulguer?
Alors, on a enregistré une petite démo de 4 titres qui se trouve sur SoundCloud.
D'accord.
De ce qu'on a commencé comme travail.
Ah bah, après, faut nous donner le nom, les titres et tout ça. Et
voilà, puis, donc faut aller sur SoundCloud et mettre Labo Bicouz en deux mots. Labo avec un chapeau sur le haut et Bicouz, B-I-C-O-U-S-E-S, parce qu'il y a plusieurs Bicouz.
D'accord, bon ok. Donc voilà. C'est ce Bicouz-là. Ok, il n'y a pas de souci. Et Maëlle?
Bah nous, finalement, l'actualité de la FAMDTA, elle est plus passée qu'à venir là pour le moment, parce qu'on a eu un gros événement début juin, du 3 au 5 juin.
Ouais.
C'était le festival Trad'Ardèche qu'on organise depuis un certain nombre d'années déjà à Priva.
D'accord.
Et donc, voilà, où on fait venir chaque année pas mal de groupes. Là, cette année, c'est une commission au sein de la fédération qui s'est chargée de l'organisation, comme c'est le cas depuis pas mal d'années. Et on va essayer d'évoluer de plus en plus dans cette organisation-là, déjà pour travailler sur la parité des musiciens et des musiciennes qui sont sur scène. C'est quelque chose qui, moi, me semble assez important et c'est une thématique qui est assez récurrente dans le milieu folk aujourd'hui. Et puis, en même temps, on aimerait travailler aussi sur des localités musicales en fait un petit peu plus spécifiques que du bal générique finalement et mettre un petit peu plus en avant si possible évidemment les musiques d'Ardèche parce que c'est un festival ardéchois mais éventuellement d'autres régions aussi et chaque année pourquoi pas mettre une ou quelques régions un peu sur le devant de la scène avec des stages de danse, des stages de musique et puis des stages de chant etc. Donc voilà, travailler là-dessus et là pour les activités à venir, on a un projet de... Je retrouve ma feuille. On a un projet donc pour 2022-2023 et les années à venir qui s'appelle Harmonisation, mise en partition et restitution de chants à danser ardéchois à partir du collectage d'âmes d'Ardèche, donc issu du disque de Christian Holler dont je parlais tout à l'heure, qui est sorti en novembre dernier. Et là, l'idée, ça va être donc de transmettre à travers deux intervenantes, donc Agnès qui est à côté de moi et Audrey Penado, de travailler sur des chansons issues de ces collectages et de les transmettre à des chorales et à des publics en Ardèche. Ça sera assez local, mais ça pourrait éventuellement être un petit peu plus large. D'accord. Et puis j'en profite aussi pour remercier très très chaleureusement la Bobine à Aubenas qui nous a prêté la salle dans laquelle on est maintenant.
Ouais.
La Bobine, c'est un lieu qui fait de plus en plus parler de lui, en tout cas en lien avec la musique traditionnelle en Ardèche, parce que c'est un lieu qui organise des bals folk. Et il y a un certain nombre de programmations dans l'année. Et là, j'aimerais citer le prochain bal qui aura lieu le 24 septembre avec D'accord. le duo Brotto-Mihiré, qui sont deux accordéonistes bien connus dans le milieu du folk et du néo-folk. Et je pense que ça va envoyer du bois et ça va danser dans tous les sens.
Avant de nous séparer, nous allons écouter le maître Patrick Mazelier avec son groupe Rural Café, air de Rigaudon du Gap-en-Sais.